Bonjour et bienvenue au One A Club, le podcast BD bimensuel qui a trois fois des jingles. Bonjour les poditeurs.
Bonjour les poditrices.
Ils pourraient nous répondre quand même, Thio, hein, franchement.
Mais bientôt... Ils nous répondront dans le podcast pour les 2 ans qu'on va faire en live.
Alors, tu sais, avec, attends, les... tu rigoles en même temps que tu parles, je comprends pas trop ce que tu dis.
Tu sais, le podcast en live qu'on va faire pour nos 2 ans, en live avec tout un tas d'ordinateurs de partout.
Voilà, tous les moyens techniques. Oui, on vous rappelle, pour nos 2 ans qui auront lieu à la mi-décembre, normalement vers le 13, nous allons... tenter de faire un événement dans le monde du One A Club, dans le monde de la Voix des Bulles. C'est un podcast énorme où vous, les poditeurs, vous allez pouvoir nous parler des BD qu'on a ratés, parce qu'on a raté plein de choses. Il sort trop de BD pour nos pauvres petits yeux et nos pauvres petits cerveaux. Donc si vous avez lu des trucs trop bien, venez nous en parler, ça nous fera grand plaisir. Ça se passera probablement par Skype, sur une plateforme technique, on ne sait pas trop exactement comment se démerder. Peut-être qu'on passera par Pod Radio, oui, parce qu'on est sur Pod Radio maintenant. Pod Radio, le site qui nous diffuse le mardi à 2h du matin, si vous êtes insomniaque, et le vendredi vers
18h, je crois à peu près. C'est ça.
Ouais, 18h. Ouais. Ah, tu suis, c'est bien. Et qui est donc, c'est super sympa de pouvoir être là-dessus. Moi, j'aime beaucoup le principe. Et on est surtout entouré de putain de bons podcasts. Franchement, il y a de la qualité autour. Mais on va peut-être pouvoir reprendre notre émission, deuxième émission de la nouvelle formule, où en théorie, on a les jingles. Et donc vous allez, là, bientôt, maintenant, entendre un jingle.
Il était temps ! Nouvelle œuvre de la bande dessinée ancienne !
J'espère que vous l'avez entendu, car nous allons parler de Pyongyang, de Guy Delisle.
Un livre que nous avons grâce à vous !
Oui, c'est vous qui nous avez offert Pyongyang grâce aux achats que vous avez fait en cliquant sur les bandeaux Amazon qui traînent sur le site. Vous avez pu nous permettre de nous offrir Pyongyang. Alors on vous en parle. Et en fait, merci. Hein, parce que...
Vous nous avez fait un beau cadeau.
Voilà. Pyongyang de Guy Delisle. C'est une chronique politique. Que nous raconte Pyongyang ? À toi, Stio.
Les aventures donc de Guy Delisle, qui travaille dans l'animation et qui va donc diriger une équipe en Corée du Nord, parce qu'ils se sont mis à faire de l'animation en Corée du Nord.
Bah oui, parce que c'est moins cher.
C'est moins cher. Et donc il se retrouve là-bas pour 3 mois au départ, pour 3 mois tout court en fait.
Ouais.
Et donc il va nous raconter sa vie dans la Corée du Nord à Pyongyang et donc toutes les visites avec les traducteurs, tout ça, les visites intéressantes qu'il a pu faire et les découvertes.
Bon, parlons du dessin, comme ça, ça va aller vite.
Moi j'ai mis photo.
Évocateur. C'est un style graphique très très simple. Mais vraiment très très simple. C'est pas quelque chose de complexe, mais qui évoque vraiment beaucoup les lieux, qui on a l'impression d'être vraiment dans du reportage au niveau du dessin. On reconnaît les endroits. D'ailleurs, un fan a été à Pyongyang et a s'amusé à prendre des photos des endroits où Guy Delisle a été et à recoller les bulles pour refaire la BD, mais en roman photo.
Ouais.
Ce qui était assez génial, on vous mettra les liens sur lavoixdesbulles.fr.
Et c'est là où on se dit quand même que le travail de Guy Delisle était quand même très intéressant, parce qu'il a quand même, ça faisait très photo, quoi.
Ouais.
Après, tout ce qui est quand il se dessine lui-même, quand il dessine son traducteur, son guide, là c'est...
C'est très simple.
C'est très simple, mais c'est... l'essentiel de l'histoire n'est pas là.
Ça, c'est ce qui permet d'avoir ce côté comique, ce qui va aller dans... Moi, ce que j'ai utilisé comme mot pour définir le scénario, c'est rire jaune.
J'ai marqué sourire crispant.
On est dans le même genre d'idée. On rit de l'absurdité de tout ce que Guy Delisle nous raconte. Mais on a envie d'en rire jusqu'au moment où on se souvient qu'en fait, c'est vrai.
C'est pas un récit, c'est de l'histoire.
C'est limite du journalisme. Il se pose lui-même en tant qu'observateur. C'est-à-dire que il fait très peu de critiques, en fin de compte. Il critique très très peu, j'ai l'impression. De temps en temps, il a envie de... Enfin, je dirais, son plus gros geste de rébellion, c'est d'envoyer des avions en papier de son hôtel. Pourquoi ? Parce qu'il peut pas, il fait partie du système, il en fait partie, donc il peut difficilement le critiquer, même s'il est conscient de son absurdité. Et donc, il en fait une sorte de récit. On a l'impression qu'il est très... qu'il va directement aux faits. Qu'il se contente de raconter les faits, même si, forcément, du fait que ce soit lui-même qui le raconte, il y a son point de vue qui en ressort. J'ai trouvé ça vraiment... Bah, drôle, mais merde, c'est vrai, quoi.
C'est ça. Tout à l'heure, on discutait justement sur les deux mots à dire. Moi, j'avais dit, oui, c'est de l'histoire avec un H, quoi, le grand H. Et il me dit, non, mais c'est pas de l'histoire, c'est contemporain, c'est maintenant. Mais pourtant, c'est de l'histoire qui est. Voilà, c'est ce qui s'est passé.
L'histoire qui se répète, ton
verre. C'est maintenant, c'est actuellement, c'est comme ça. Et malheureusement, je pense que ce sera encore comme ça. Donc, cette histoire-là, elle va se répéter, quoi. Ce qu'il décrit, lui. C'est la réalité de la vie pour ce pays-là.
Et puis, c'est quelque chose de très particulier parce qu'on est quand même dans une description d'une façon de vivre particulière à Pyongyang. Il est dans des hôtels réservés aux étrangers, il peut aller que dans certains restaurants. Où qu'il aille, il est obligé de se faire accompagner par un guide et un traducteur. Il est super encadré. Où qu'il aille, on sent qu'en fait, il y a toute une mascarade parce que comme il est étranger, il faut qu'on lui montre autre chose que la réalité. On a l'impression qu'il est au village. Dans le prisonnier.
Oui, mais il le dit à un moment.
Oui.
Il fait un parallèle justement quand il est là, parce qu'il est sur une île et donc il y a la plage, et il dit il manque que le costume et les ballons géants qui me poursuivent.
Voilà, c'est vraiment. On a l'impression qu'il est dans le prisonnier et que, bah, comme dans le prisonnier, derrière ce décor, il y a une réalité qui est tout autre. Enfin, un très bon bouquin. Moi, je suis content. C'était le choix d'Antoine Boza.
Oui, je vous en ai parlé. Et au fait, la série qu'il faisait en Corée du Nord, c'était Papyrus.
Ah, t'as fouillé, t'as cherché. Il travaillait sur la série Papyrus. Ah, de Dupuis, un truc très bon enfant.
Ouais, ce dit en passant, d'ailleurs, dans le dessin de Pyongyang, il n'y a à aucun moment, aucune animation qui rappelle Papyrus.
Non, il s'arrange pour ne pas en parler du tout. Il parle de ce que font les autres, parce qu'il parle des autres animateurs qui bossent sur Corto Maltese.
Sur Corto Maltese, et qui ont perdu toutes leurs feuilles.
Le bleu est une couleur chaude de Julie Marot. Une bande dessinée dont le scénario serait du récit amoureux, tout ce qu'il y a de plus logique, un récit amoureux. Alors ça, on hésitait aussi à l'acheter, c'était dans la sélection, vous n'avez pas voté pour lui, mais quand même. Voilà.
Voilà. Bah, en fait, c'est parce que... Ben oui, non, mais comme je disais, je sais pas, je l'ai peut-être déjà dit, je vais me répéter, mais je suis passé plusieurs fois dans une grande enseigne rouge qui commence par un V. Ils en avaient un, je l'ai lu 2-3 fois dans la boutique sans jamais l'acheter, et finalement le jour où j'ai voulu l'acheter, je suis dans d'autres boutiques, ils ne l'avaient plus, j'ai dit non mais c'est pas possible, plus personne ne l'a, et donc je suis retourné dans la grande enseigne OV pour l'acheter.
Voilà, oui, non, parce qu'il est devenu assez difficile à trouver, et pourtant il a été très très bien distribué, je l'avais même vu dans un relais Hachette dans une gare.
Ouais, non, tu sais quoi, j'ai vu du Walking Dead, ils le vendent à Carrefour maintenant.
Ah ouais, mais tellement une grosse vente. Le bleu est une couleur chaude, donc, au niveau du dessin. J'ai mis crénelé. J'aime bien trouver des mots bizarres.
Couleur.
Ouais. Alors, explique ton couleur. C'est facile, mais bon. Pour les gens qui ne l'ont pas lu.
Ben en fait, la seule couleur qu'on a dans tout le début du bouquin, c'est les cheveux bleus de...
En fait, dans les flashbacks.
Hein ?
Dans les flashbacks, on n'a que les cheveux bleus comme couleur. Sinon, tu as...
Les cheveux d'Emma, en fait.
Ouais. Les cheveux et d'autres objets qui sont bleus. Mais sinon, sur tous les autres passages, tu as la pleine couleur.
Passe, ouais,
sur le contemporain.
Mais qui reste quand même bleu. L'essentiel du bouquin reste bleu.
Rapproche-toi du micro, s'il te plaît.
L'essentiel du bouquin reste bleu.
C'est mieux.
C'est mieux. Donc ouais. C'est l'histoire amoureuse en fait, de Clémentine et d'Emma.
Oui, oui, je vous fais n'importe quoi sur cette chronique.
Ben oui, parce qu'en fait, tu me perturbes à me faire parler dans le micro. Voilà. Enfin, bon.
Oui, on va suivre donc, surtout la découverte de l'amour de Clem, qui va découvrir... ce que c'est que l'amour, surtout quand on n'aime pas comme tout le monde. Dans le sens, enfin, comme tout le monde. Quand on n'aime pas...
Quand on n'est pas hétéro, en fait.
Quand on n'aime pas comme la norme, quand on n'est pas hétéro. Et puis surtout qu'on le découvre. Ce qui n'est pas une chose évidente. Et donc, on va suivre un peu tout ça. Moi, j'ai mis crénelé pour le dessin parce que y a des hauts et des bas. Il y a des dessins superbes, des planches magnifiques, des portraits géniaux. Et puis, il y a des passages où j'ai l'impression que ça a été fait plus vite fait, où les proportions sont moins justes, où on voit que c'est un premier album, quoi.
Mais tu me disais aussi que ça a été fait sur la longueur, en fait.
J'ai l'impression que ça a été fait sur la longueur, pas d'un trait. C'est l'impression que ça donne, en tout cas. Et qu'il y a des passages qui sont beaucoup plus brillants que d'autres. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a des passages mauvais, mais j'ai l'impression d'avoir vu alterner une qualité de trait, de travail, et que ça manquait un peu de cohérence à ce niveau-là, ce qui était un peu dommage. Parce qu'il y a vraiment des planches sublimes au milieu du reste, des sourires, des visages principalement.
Il y a des portraits qui pour moi se rapprochent pas de la photo. On a, enfin dans le sens, t'as un sentiment, t'as une émotion.
Ouais, plus expressif. Tu as ce côté plus expressif qu'apporte le dessin du sentiment. C'est légèrement exagéré là où il faut pour accentuer l'expression. Le scénario. J'ai trouvé ça basique, en fait.
Pourquoi ? Pour moi, j'ai nommé ça en scénario, c'est un amour triste.
Ouais, mais c'est basique. Quand je dis basique, je dis pas mauvais. Hein. Je dis que c'est juste... dans le drame, c'est très basique. Je lis le journal de mon amour disparu qui est mort. Parce que c'est comme ça que ça commence. Hein. On le cache pas. Hein. Mm-hmm. Et ensuite, on a du flashback pour montrer toute la difficulté de ses débuts de relation, etc. On est dans quelque chose, dans ce genre de récit, qui est... très, très, très classique. Il n'y a aucune surprise, en fin de compte.
Je dirais oui, mais est-ce que tu serais capable, là, comme ça, de me sortir une bande dessinée qui a ce récit-là ?
Pas forcément une bande dessinée, mais tu pars sur du film américain à l'eau de rose.
Oui, mais pause. C'est là, justement, pour moi, où c'est novateur, quoi. C'est que...
Tu veux dire que transcrire un type d'histoire sur un autre support, ça la rend novateur ?
Oui. Parce que c'est une discussion qu'on a déjà eue il y a quelques mois. Quoi. Je trouve que la bande dessinée devient aussi, et enfin, moi je dirais heureusement, hein, mais j'ai l'impression que ça devient de plus en plus qu'un mot grand jour, ça devient un support sérieux. Quoi. C'est-à-dire qu'on peut aussi traiter quand même des choses qui ne sont pas simplement de l'histoire, ça te fait rire, c'est de l'histoire de bourrin. C'est de voilà,
on... ah non, mais je suis d'accord, mais disons que je n'ai pas l'impression que...
Alors, je suis d'accord avec toi dans le sens où le scénario, oui, n'apporte rien de neuf. Quoi. C'est comme si tu prends Avatar, ouais, c'est un énième Pocahontas, certes. Mais là aussi, c'est une histoire d'amour. Quoi. Ouais, c'est le journal de quelqu'un, on est en train de suivre sur une histoire d'amour. Oui, mais moi, ça m'a vraiment emballé dans le sens où... le voir retranscrit comme ça, voir ce mélange entre le texte, les émotions dues au dessin... pour moi, ça je dirais pas que ça a été une claque, quoi, mais ça a été vraiment intéressant.
Moi, je trouvais ça sympa, mais voilà, en fait, c'est mon 5000 km par seconde à moi. Je passe un peu à côté, en fait, je sais pas.
Écoute, c'est le Angoulême de l'an dernier, on est chacun le nôtre. Ouais, j'ai 5000 km, c'est pas passé, toi, c'est le bleu.
Voilà, j'ai trouvé sympa, hein, j'ai passé un bon moment, c'était agréable, mais je suis pas resté emballé comme toute la critique a pu l'être. Pourquoi ? Parce que même si c'était bien raconté, même si les dessins et le texte s'allient très très bien, j'ai pas réussi à rentrer dans le sujet. J'ai réussi à comprendre, j'ai compris l'amour entre les personnages, j'ai compris la détresse de Clem quand elle sait pas où elle en est, où elle va, ce qu'elle va faire. Mais ça m'a pas touché.
Ok, c'est aussi pour ça, hein.
Dans les bacs. Autant là, on a eu un super jingle pour nous dire qu'on va parler des trucs qui sont dans les bacs. Ralph Azam, numéro 2. Nous avions bien apprécié le premier. Nous enchaînons. Lewis Trondheim, elle est lentement comparée à son habitude.
De faire une BD par jour.
Voilà. Et nous raconte un récit d'aventure fantastique. On est dans du classique, aventure fantastique, on est dans un monde médiéval, avec de la magie, des pouvoirs, etc.
Différentes races, des trucs un peu bizarres.
Voilà, même si le fait que ce soit des différentes races, c'est pas très grave, ils y font pas très attention.
Non.
Voilà. Nous suivons Ralph Azam, qui est arrivé dans la super école des devins, des élus. Avec d'autres jeunes qui vont être formés pour être élus comme lui, sauf qu'apparemment, quelqu'un essaye de tous les tuer. Et il s'échappe, et il s'enfuit avec ses potes, ses nouveaux potes. Mmh. Pas tous, parce qu'il y en a certains qui disent « Mais non, on ne peut pas essayer de nous tuer, vu qu'on est les élus. » Voilà. Donc, ils se font tuer.
Ce qui a donc d'ailleurs valu le mot que j'ai dit pour le scénario, c'est-à-dire « catastrophe en série
hein. ». Et moi, pour le scénario, j'ai mis « coïncidence », parce qu'il y a une tétrachie de coïncidence, en fait, dans ce scénario.
De celles qui font dire, en théorie, à un privé, dans un polar noir, mais...
Il y avait trop de coïncidences, que ce soit honnête.
C'est ça.
Donc ça s'enchaîne. C'est toujours, on a le même enchaînement d'action, de péripéties non-stop qu'il y avait dans le premier tome.
Ça en devient un peu répétitif, justement, sur le coup, parce que c'est à chaque fois, on se pose une cata. On se pose une cata. On voyage, une cata. On croise quelqu'un, une cata. Je dis bon...
Ouais, mais c'est super divertissant.
Ah non, c'est divertissant, je suis d'accord, mais c'est pas très varié, quoi.
Ouais, enfin bon, je pense pas qu'il ait eu envie avec Ralph Azam de nous faire un truc qui nous pose autant de questions sur le sens de la vie, de l'univers et du reste.
Je te parle pas du sens de la vie, mais je te parle simplement de... Ouais, tu me racontes une histoire, c'est cool, quoi. Il y a de l'action, c'est dynamique, yes, il y a du fight et tout, il y a des combats épiques, ok. Mais ouais, enfin, c'est peut-être pas la peine de de mettre tout, d'en mettre 50 par tome, quoi.
Ah, mais s'il arrive à garder le rythme et être aussi intéressant tout du long, non tu...
Bah, je sais pas. Peut-être que sur la longueur, ce sera... Je pense que ça va être un peu lassant, quoi, sur la longueur.
Faut voir combien de tomes il a prévu. Tant que ce n'est pas 42.
Ouais, pour le sens de la vie, ça aide.
Donc non, il a fait un certain nombre de... j'espère en tout cas que ça va se continuer à être publié assez rapidement. Au niveau du dessin.
Bah, là, je crois que j'ai dit pareil que pour le premier tome.
D'accord, et tu avais dit ?
Trondheim.
Ah bah oui, tu as dit pareil que pour le premier tome. Je mis simple.
Bah, c'est... Ouais, mais c'est son... enfin, il a un trait... je trouve qu'il a un trait de crayon qui est tellemment particulier, des couleurs qui sont tellement...
Alors, les couleurs, c'est Brigitte Findakli, son épouse, ouais, qui oui, fait un dans travail le
sens,
superbe.
Voilà, mais dans le sens où, si tu veux, c'est un ensemble et c'est tellement typé que bah, c'est lui, quoi.
Oui.
Au premier coup d'œil, tu sais que c'est lui. Tu... Voilà, c'est... Et ça n'a rien de péjoratif, hein, je veux pas qu'on dise... Oui. C'est, voilà, il a un trait qui est tellement particulier qu'on le reconnaît au premier coup d'œil, quoi.
On le reconnaît au premier coup d'œil, et puis là, en plus, comme on le disait pour le tome précédent, au niveau des couleurs, il y a eu un changement dans le travail de Brigitte Findakli. C'est beaucoup plus de dégradé, beaucoup plus flamboyant, beaucoup plus épique, qui ça colle très très bien à cette histoire, dont j'attends la suite quand même, parce que j'étais bien pris dedans, même si je crains que effectivement, il me reste que assez peu de souvenirs sur le long terme.
Et je crois que c'est le quatrième de couvre qui est quand même très très joli à regarder.
Oui,
moi, j'ai
oui,
beaucoup
le
aimé.
Le travail sur les arbres est superbe, quoi. Sur les couleurs, là, surtout.
Ouais.
Bloodlight, tome 1. Bloodlight nous raconte l'histoire d'une jeune fille qui débarque de sa ville pour arriver dans un bled paumé pour vivre chez son père. Et là, elle rencontre un beau gosse qui a un comportement étrange, qui serait peut-être un vampire et qui a toute une famille de gens un peu comme lui. Vous aurez peut-être reconnu le scénario de Twilight, car nous sommes, en tout cas c'est ce que nous avons mis pour le genre, dans une parodie vampirique.
C'est Bella au fait, la fille.
Et lui c'est Edward.
Et Edward Cudelaine.
Cudelaine. Que dire de cette bande dessinée de chez Quantique ? Parlons d'abord de ce qui est réussi. Le dessin.
Ouais.
Que j'ai trouvé très dynamique. Qu'en as-tu pensé ?
Bah, je l'ai trouvé, bah, d'une part, c'est clair, très dynamique. Ça ressemble... beaucoup de scènes sont reprises exactement comme celles du film. Non, tiens-toi aux branches. Et oui, malheureusement, je l'ai vu.
Ah, tu as vu le film ?
Je l'ai vu. Et...
Moi, j'ai lu le début du livre.
Et le pire, c'est que...
T'as aimé ?
C'était des soirées où j'avais pas envie de réfléchir.
T'as aimé ?
Et finalement...
Non, mais vas-y, non, mais dis-le. Tu...
J'ai honte, mais oui, c'était bien.
Tu as vu les autres ?
Je les ai tous vus.
Tu vas aller voir le 4 en deux parties au cinéma ?
Écoute, peut-être bien, franchement, c'est... Non, mais voilà, non, les films, ça se regarde...
Tu regardes Vampire Diaries ?
Non, faut pas abuser, quand même. Ah. Non, mais voilà, c'est vraiment, ça ressemble énormément au film. Le visuel des personnages est très ressemblant. Et ils ont pris toutes les critiques que je faisais en regardant le film. Ben, ils ont fait les mêmes dans le livre.
Voilà. Mais bon, le dessin, donc, on y revient, il est très réussi. Mais malheureusement, ce que tu disais, moi, j'ai mis au niveau du scénario, j'ai mis redite.
Redite, ouais. Redite, mais drôle. Et puis le jeu sur. Moi, je trouvais que le jeu sur les titres, c'était bien, parce que c'est Tentation.
Oui, oui.
Passion. Et là, c'est Frustration, le premier tome. Et le deuxième, ce sera Excitation, quoi.
Oui, oui. En plus, ça résume beaucoup mieux, je trouve,
l'histoire.
Les tomes. Moi, j'avoue, j'ai commencé à lire Twilight sur les premiers tomes. Effectivement, ça met un peu en avant les défauts, entre guillemets, qu'il y avait dedans. Moi, j'ai arrêté quand j'ai découvert que les vampires brillaient à la lumière et quand j'en ai eu marre d'entendre toutes les pensées de la jeune fille qui t'expliquait qu'il m'a touché la main, peut-être que ça veut dire quelque chose. Alors que moi, ce que je voulais savoir, c'est quoi ses pouvoirs ? C'est ça qui m'intéressait, tu vois.
Mais il a des super pouvoirs.
Et moi, je voulais savoir ses pouvoirs. Je m'en foutais de savoir. Et c'était quoi l'origine de ses pouvoirs ? Et l'histoire des vampires et tout ça. Ça avait l'air intéressant. Le coup de. Il lui a touché la main, je m'en foutais un peu en fait. Pas le public visé, on va dire. Enfin, en tout cas, moi. Toi, peut-être. Moi, je n'étais pas le public visé vis-à-vis du bouquin. En tout cas, très très bien écrit.
Ça sent l'attaque personnelle, ça.
Voilà, après, tu vas me dire que t'as pas aimé Scalp parce que c'était trop violent, c'est ça ?
Non, mais attends, je partage avec la France entière. Ben,
oui,
voilà.
Non, mais c'est bien.
Mais
tu regardes, bravo.
Il y a de la lecture de chiottes, il y a des lectures honteuses. Et ben voilà, c'est mon cinéma honteux. J'ai regardé Twilight avec ma femme, et ben j'ai aimé ça. Voilà.
Très bien, mais très bien, mais je ne te le reproche pas, je le rappelle au public pour qu'il puisse, le jour où il te croise, s'en souvenir.
S'il me croise un jour.
Oui, hein. Oui, oui. Moi, j'ai trouvé que malheureusement, on est trop calqué sur le bouquin, la parodie était très très légère, c'était à chaque fois des petits détails qui étaient mis en avant, mais que franchement, on est limite dans un... On a le bouquin, on le suit dans l'ordre, pas hein. Enfin, on rajoute une petite pique rigolote, mais ça va jamais très loin et j'ai jamais été, enfin j'ai à peine souri quoi. Moi j'ai pas du tout, j'ai pas trouvé ça exceptionnel quoi.
Vous voyez des moments qui m'ont quand même fait, qui m'ont fait rire parce que justement je revoyais le film et je me dis tiens cette réflexion là je me la suis faite. Ah celui-là oui aussi je l'ai trouvé ridicule. Ouais mais voilà moi ça m'a fait rire pour ces raisons là parce que j'ai pris le film au deuxième degré et que du coup j'ai vraiment pris le Blue Light au deuxième degré aussi.
Si vous avez aimé Twilight, je pense que vous pourrez apprécier cette bande dessinée. Ne serait-ce que pour le dessin qui est très très bien, que en général sur ce genre de bande dessinée qui surfe un peu sur une tendance, hein, je veux dire, faut pas nier que en faisant ça, tu surfes sur une tendance. En général, ils refilent ça à un dessinateur un petit peu moins performant. Là, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça très très beau. J'aimerais bien voir ce dessinateur sur autre chose. D'ailleurs, les auteurs, c'est Zaz, Esdras et Gwen. Donc, c'est une dessinatrice, je pense, avant que ce soit la coloriste en dernier. J'en sais rien.
C'est Quantique.
Chez Quantique, ça coûte ?
À peu près.
D'accord.
Les couleurs, c'est Gwen, le dessin, c'est Ezra, c'est le scénario, c'est Zaz. Ça, c'est fait.
Sculpt numéro 4. Ouh là là, c'est trop violent, ça fait peur. Une bande dessinée de Jason Aaron avec R.M. Guerra et c'est, je ne sais plus comment, Fourneau au dessin.
David Fourneau.
Au dessin. Nous reprenons la suite des aventures de nos personnages préférés dans leur petit bled paumé, plein d'Indiens.
On suit Dash Bad Horse et Red Crow.
Red Crow. Et là, on va d'ailleurs suivre beaucoup plus Red Crow.
Oui.
Dash est un petit peu laissé de côté, ça y est, il a essayé de se réconcilier avec son passé, il a accepté d'aller s'installer dans la maison de sa mère décédée. Et là, on va suivre Red Crow qui a vraiment les boules, parce que tout le monde croit qu'il a tué la mère de Dash, alors que pas du tout.
Et surtout qu'on a quand même des grosses révélations sur le passé de Red Crow.
Eh bien, au niveau du scénario, j'ai mis tout simplement que c'était humain.
Conscience.
Oui, on a oublié de dire le genre, c'est du polar rouge.
Ouais.
Humain, conscience, ouais, c'est ça.
C'est comme ça qu'il faut dire. Oui. C'est du polar rouge. C'est pour voir, j'ai fait un jeu de mots.
Ouais, c'était drôle. On en a un autre pour plus tard. Du polar rouge, ouais, c'est super...
Prenant.
Prenant. Et là, les personnages, en fait... Red Crow, qui passait pour le chef impitoyable, dur, etc., on découvre qu'il est très, très, très humain et qu'il est persuadé de faire bien, même s'il le fait mal.
Non, je dirais qu'il n'est pas persuadé de faire bien. Il est persuadé de faire au mieux.
Oui, oui.
Parce qu'il sait que c'est mal. Il sait qu'il a fait des choses mal. Il le dit d'ailleurs qu'il y a des fantômes qui vont le hanter jusqu'à la fin de ses jours. Mais il se dit, j'ai fait le mieux possible.
Il l'a fait pour une bonne raison. À chaque fois. Et donc, on va suivre un peu tout ça. Donc, on a toute l'histoire de la mère quand elle était jeune avec Red Crow et leurs différents amis. On a une seconde histoire qui, elle, va plutôt se concentrer sur les Tongs qui essayent. Les Mongs, pardon. Les Tongs. Les Tongs.
Qui les triades chinoises, en fait.
Qui essayent de prendre le contrôle de la plage.
Donc. La triade chinoise, en fait, qui a fourni de l'argent à Red Crow, justement, pour faire son casino, qui a envoyé un gars qui...
C'est pas la triade chinoise, hein, c'est les Mongs, hein, c'est pas des Chinois.
Si, c'est des Chinois.
Ouais.
Ou des Hongkongais, si tu veux.
Ouais, enfin bon.
Enfin bon, on est quand même dans du...
Dans
de la mafia, quoi. Et qui a fourni de la thune à Red Crow, justement, pour ouvrir son casino, et qui vient un petit peu gérer ses affaires, parce qu'il trouve qu'il est un petit peu léger dans sa gestion.
Un petit peu laxiste.
Oui.
Et eux, ils viennent montrer ce que c'est que de ne pas être laxiste.
Et Red Crow va expliquer comment est-ce que lui aussi, quand ça le gonfle, il n'est pas laxiste.
Voilà. Comment on règle les histoires quand on est un Indien et qu'on a de l'honneur. Enfin voilà, toujours superbe. Une super traduction. La traductrice a la très bonne idée. En fait, toutes les têtes de chapitre, c'est des noms de chansons. Et à chaque fois, nous note, ça vient de telle chanson, par tel auteur, etc. Et ça, c'est super bien parce qu'on montre que plutôt que de traduire, c'est un vrai travail de traducteur, quoi. Elle a pas juste chopé les mots pour essayer de savoir ce que ça allait dire en français. Elle a trouvé les références, elle les a comprises et elle a essayé de nous les retranscrire au mieux. J'espère qu'elle va rester sur le titre quand ça va passer chez Urban Comics et que ça va continuer chez Urban Comics. Le dessin, que je considère comme brut.
Alors le dessin, j'ai pas réussi à mettre deux mots. Pas deux mots même dans le sens.
Bon, on a deux dessinateurs. Hein,
ouais. C'est qu'en fait, j'ai trouvé que beaucoup de passages en gros plan étaient splendides.
Ouais.
Beaucoup de moments où on a des focus sur les visages, sur les mains, sur avec des contre-plongées où on est vraiment très très, enfin vraiment cadré sur le personnage, c'est splendide. Et tous les décors sur celui-là, j'ai l'impression qu'ils ont été un peu bâclés, quoi. Toutes les scènes où on a de la profondeur dans le champ, ben, c'est un peu dommage.
C'est aussi le truc de la BD américaine, quoi. Quand tu te tapes tes 22 planches par mois, oui, t'as pas beaucoup de temps pour travailler tes décors.
Ouais, hein. Mais c'est ce qu'on n'avait pas dans les trois premiers tomes. Enfin, en tout cas, voilà, peut-être qu'on l'avait, mais dans les trois premiers tomes, ça m'a pas choqué. Là, vraiment, j'étais un peu déçu sur les grandes scènes, parce que ben, le devant est bien, mais derrière, ben, c'est un peu.
tu devrais être moins émotif quand tu passes à la télé.
Et voilà. Et là, le donc, le fond de l'image.
Vas-y, continue dans le fond, ouais, le fond, ouais, vas-y.
Donc, ce qu'on a en arrière-champ de l'image. Et donc, voilà, je trouve un petit peu bâclé, ce qui était, je trouve, un peu dommage. Parce que dans les trois tomes précédents, j'avais pas eu cette impression-là.
Et là, ça m'a un petit peu choqué. Mais sinon, c'est vrai que ce soit. Les deux dessinateurs, que ce soit
Fourneau sur la première partie, ouais, et Guerra
sur la Rage aux Tripes, sont dans leurs deux styles. Surtout sur la Rage aux Tripes, moi je suis resté scotché parce que le titre si au dessin, quoi. On a vraiment l'impression qu'ils, dans celui-là, ils sont enragés, quoi.
Il y a une violence contenue dans le dessin, t'attends, ouais, que ça éclate à n'importe quel moment.
C'est... Tu sens que c'est latent, ça monte et c'est prenant. Ça a été un très très bon bouquin. Qui m'a bien emballé sur tome 4. Sauf le dessin sur certains aspects.
Ouais, mais moi je suis resté à fond la caisse. Scalp tome 4, donc 13€ chez Panini Comics.
The Rocketeer.
Oh là là, et là je vois la superbe affiche de ton frère.
Oui, Rocketeer.
Rocketeer.
Qui est en fond de pile, Rocketeer par Def Stevens. Rocketeer, vous connaissez sans doute le personnage parce qu'il y a eu un film par Joe Johnston, le gars qui a réalisé le film Captain America il y a peu, basé sur cette bande dessinée. Et quand on voit le film avec ce héros aviateur qui porte une combinaison avec un casque et des fusées qui lui permettent de voler pour lutter contre des méchants nazis, et ben là on se dit waouh, ça devait être un super vieux truc qu'ils ont adapté.
Là, on dit, tiens, c'est de la super aventure pulp. Oui. On se dit, c'est super vieux. Et bien, en fait, pas du tout.
Et non, car Rocketeer, ça date des années 80.
Et pourtant, en feuilletant, on peut se dire, mais ça pique les yeux à des moments. C'est vraiment.
Non, je ne sais pas trop qui ça pique les yeux, mais alors pas du tout. Mais ça, c'est une question de goût. Je n'ai trouvé à aucun moment que ça piquait des yeux. Donc, Rocketeer, ça a été fait entre 82 et 95 par Dave Stevens, qui est malheureusement décédé, il ne fera pas la suite. Et ce tome. Et c'est ça qui est terrible, contient l'intégralité de The Rocketeer. C'en est triste. Dave Stevens a voulu faire donc un hommage au héros pulp classique, mais il a créé un personnage. Alors vas-y, pour le scénario, quel est ton mot ?
Bah, film.
Moi j'ai mis hommage. Mais il va plus loin que ça. Notre héros est un anti-héros. Totalement. Le héros, il veut avoir des super fusées pour flamber devant sa copine et se faire des thunes.
C'est
le seul truc qui l'intéresse. Quand j'ai lu ça, j'avais jamais lu Rocketeer avant. Mon frère, quand il avait fait sa BD Rocketeer, il disait que Rocketeer, il voulait gagner de l'argent et aller aux putes. En disant « Ah, je suis trop parodique, je dis que des conneries ». J'ai lu le truc et j'ai fait « Merde, c'est presque ça ». Je trouve que le personnage est super génial parce que il pense qu'à lui, en fin de compte. Et on n'a pas de héros dans cette BD.
Si, on a Betty Page.
Ah, Betty Page, c'est pas une héroïne, quoi. Betty, qui n'est pas Page d'ailleurs de son nom de famille. Mais
de son nom de famille, mais qui est Betty Page.
Voilà, qui est Betty Page et qui fait des photos artistiques.
Ouais.
Et ça plaît pas trop aux héros. Et donc, on va suivre un peu ses aventures parce qu'en fait, il trouve les roquettes qui, en fait, sont un projet de savants américains que des nazis essayent de voler.
Les méchants nazis.
Et donc, il se retrouve au milieu de plein de conflits. Et c'est tellement bourré d'hommages qu'on a un hommage au héros pulp par excellence, qui est The Shadow, qui apparaît dans la bande dessinée sous une des identités secrètes et qu'on ne voit jamais en tant que The Shadow, enfin, quasiment jamais, pour une raison. Très très simple, je pense qu'il n'avait pas les droits.
Il n'avait pas les droits pour l'utiliser.
Mais en tout cas, ça a été utilisé de façon très intelligente comme clin d'œil, c'est très très sympathique. Ça, c'est dans la deuxième partie, quand il se retrouve à aller à New York pour essayer de ramener Betty, qui est partie faire des photos d'art à New York.
Et peut-être des films.
Ouais, peut-être des films. J'ai trouvé vraiment, le scénario m'a éclaté. J'ai trouvé ça léger, j'ai trouvé ça fun, j'ai passé un super bon moment.
Alors c'est très léger, moi ça a quand même fait... Bon, moi je connaissais que le film, hein. Vraiment. J'ai découvert ça quand tu m'as filé la BD, parce que je n'étais pas fan du personnage. J'avais vu Rocket Tire au cinéma quand il était sorti.
Waouh.
Et c'est, voilà, c'est clair que le film colle énormément au visuel du comics, et c'est bien. Mais ça casse pas trois pattes à un carré.
Ah non, moi j'ai adoré. Moi j'ai adoré. Le dessin, justement. Ce dessin.
C'est du pulp, quoi. On est en plein dans les années. Dans les années 40, 50 aux États-Unis, quoi, avec les pin-up.
C'est beaucoup plus dynamique au niveau de la mise en page, de la narration, du trait, de l'ancrage. Alors en plus, on a les couleurs de Laura Dupuis qui, pour le coup, sont vraiment contemporaines, hein, ont été refaites en 95, je crois, donc en informatique. Mais je trouve que toutes ces façons qu'il a d'utiliser les camés pour montrer les portraits des personnages, le travail sur la mise en page, qui est très recherché, très dynamique et très esthétique surtout. Enfin, pour moi, c'est ultra moderne, quoi, dans le ton. Ça rend hommage à quelque chose de vieux, mais c'est ultra moderne.
Bah, dans la lecture, très honnêtement, si tu ne m'avais pas donné les dates, je serais resté un petit peu à me dire « ouais, c'est un vieux truc, quoi ». Enfin, disons, visuellement, pour moi, ça a l'air d'être vieux, ça a le discours qui est ancien, et enfin, il y a tout qui est vieux, quoi, dedans. Ça m'a vraiment pas
empêché. Sauf que le personnage est un anti-héros. Je veux dire, dans les vieux trucs comme d'un point de vue de l'histoire, tu vas avoir un beau héros pilote vaillant qui va venir sauver le monde. Là, il veut pas sauver le monde, il veut se taper la fille.
Non, mais il se la tape déjà, c'est sa copine.
Oui, mais il veut continuer à se la taper.
Ah, ça, je suis d'accord.
Voilà, surtout que c'est l'icône de l'époque de la beauté, quoi. C'est qui est utilisé. D'ailleurs, il dessine très très bien les jeunes filles, Dave Stevens. Je trouve que sa Betty Page est superbe.
Tu reconnais exactement le personnage, quoi. Hein.
Oui, mais même les postures, les poses, il a repris tous les clichés de façon magistrale. J'ai trouvé donc ça très très bien. Moi, Rocket Tire, j'adore. Je vous recommande d'aller dessus. Et j'attends avec impatience, j'espère que chez Delcourt, ils vont le sortir. Les histoires de Rocket Tire qui ont été faites après, c'est Rocket Tire Adventure, je crois que ça s'appelle. C'est sorti aux États-Unis chez un éditeur américain. Où en gros, ils ont demandé à des auteurs contemporains de dessiner et de raconter des histoires de Rocket Tire. Et des auteurs contemporains, pas n'importe lesquels, il y a du très 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 gros et lourd. Je vous enverrai un lien où il y a la liste parce que je m'en souviens plus, mais c'était impressionnant. Blotch Page. Bonjour et bienvenue au journal de 13h. Nous allons aujourd'hui vous parler d'un nouveau parc d'attractions qui s'ouvre près de Paris. Le parc Zombielennium, un parc qui fait sensation mais qui apporte déjà de nombreuses critiques de la population locale.
Bonjour et donc bienvenue au Zombielennium, le nouveau parc d'attractions avec des monstres, les vrais. Pas comme au parc d'Astérix ou à Disneyland ou à Vulcania. Mais nous sommes donc ici en train de visiter le Zombielennium. Des zombies, des fantômes, des squelettes, des vampires, des loups-garous. Et nous allons suivre donc l'histoire d'un mortel, mortellement tué et qui a eu la malencontreuse expérience d'être transformé en vampire. Aurélien est devenu le vendeur de barbe à papa du parc.
Vampire ou loup-garou ?
Le choix était difficile pour lui parce qu'il y avait trop de vampires, alors on a dit loup-garou. Mais finalement, les vampires ont dit vampire. Donc vampire, héros loup-garou, héros vampire, héros loup-garou. Ce qui fait qu'il a eu quelques morsures, le pauvre gars. Un petit peu troublé, tu vois, de cet état de fait parce qu'il s'est retrouvé rapidement couturé de partout.
Comme son pote Franck.
Mais du coup, on se retrouve aussi dans un parc avec des travailleurs et des travailleuses qui sont spoliés. On oublie finalement tout le travail qu'il faut réaliser pour eux. Ils sont là à travailler nuit et jour, ils ont un contrat à durée indéterminée, c'est-à-dire pour l'éternité malheureusement.
Les 35 heures quand on est immortel, c'est long.
C'est long, surtout quand on en fait presque 125. Avec une sécurité sociale inexistante, avec le droit d'être viré, c'est-à-dire de manière définitive. C'est la mort, la disparition totale.
Ils ne sont pas déjà morts ?
Oui, mais c'est la disparition totale, c'est plus la mort. Avec donc le patron, le Behemoth, qui en plus a lui besoin d'avoir un parc qui est rentable, ce qui n'est pas le cas parce que le Zombielennium est en déficit.
C'est malheureux. En plus avec les taxes qu'ils veulent imposer au parc d'attractions.
c'est sur taxe sur les sodas aussi.
Mais oui.
Hein, qu'est-ce qu'ils vont vendre à par attraction? Et donc on va suivre les aventures d'Aurélien, qui va être donc la nouvelle attraction du Zombielenium, parce que c'est un démon.
C'était pas un vampire?
Mais c'est un vampire en fait qui va mal tourner, il a un souci. On sait pas encore trop pourquoi, mais il se transforme en démon quand on le chiffonne un peu, quand on lui donne un bon stimulus, comme il dit lui-même.
D'accord.
Et donc c'est Gretchen en fait qui va nous faire découvrir tout ça, qui est donc une sorcière qui va quelque part créer l'histoire du pauvre Aurélien, qui va donc nous faire découvrir petit à petit tout le parc d'attractions, ses à côté. On a des couleurs qui sont assez dynamiques, parce qu'en fait entièrement numérique,
entièrement vectoriel.
Vectoriel, je ne sais pas si pour le mot. Parce qu'elles sont faites donc par Arthur Depin,
oui,
que nous connaissons et nous avons déjà chroniqué pour lui
la marche du crabe,
qui a été faite par Arthur Depin.
Oui, il y a une petite nuance dans le nom. Mais que dire donc déjà du dessin? J'ai voulu utiliser le mot radieux par exemple pour le définir. Cela te semble-t-il convenir?
Moi j'ai mis mignon en fait.
Mignon?
Mignon. En fait, quelque part, c'était un petit clin d'œil aussi à ce qu'a fait Arthur Depin d'empêcher Mignon.
Oh.
Et en fait, j'ai trouvé ça super mignon parce qu'on s'attelle à quelque chose qui est carrément à côté de ce qu'on imagine d'habitude. Moi, quand je l'ai lu, j'ai retrouvé le croque-monstre.
Oui, le croque-monstre chaud.
Croque-monstre chaud, voilà. Et voilà, c'est que des
monstres. Ça fait du bien, là, où ça fait mal.
Ouais, c'est que des monstres. Mais c'est des monstres, ils sont mignons, on comprend qu'ils ont une vie, quoi.
Enfin, une mort.
Une mort. Attends, c'est pas parce que je suis un squelette que j'ai pas le droit d'être un noir pacifiste qui a été tué sur la chaise électrique en 66 et délégué du personnel, parce que on peut pas faire n'importe quoi, même si on est immortel.
Et qui se plaint qu'on fait preuve de racisme vis-à-vis de lui.
Oui.
Même si c'est un squelette.
Même si c'est un squelette. Parce que tout le monde le sait, en fait, qu'il est noir.
Voilà.
Voilà, et c'est moi je trouve que c'est bourré d'humour, c'est excellent au possible.
Sur le genre, on a mis comédie des morts, mais moi, sur le scénario, j'ai quand même dit que c'était très, très, très politique.
Oui, parce que je pense que derrière, il y a le côté drôle du croque-monstre chaud, mais il y a aussi quand même la grosse critique par rapport au management, quoi, à la critique d'une manière de diriger une entreprise.
Très capitaliste.
On est là pour faire de la thune, on est là pour que la thune, elle rentre, il faut qu'il y ait des sous. Et à aucun moment finalement on s'attarde au désir de chaque individualité.
Ces individualités d'ailleurs, mais qui sont-ils donc tous ces personnages? Tu nous as parlé d'Aurélien, tu nous as parlé de Gretchen.
Gretchen qui est une petite sorcière, donc qui est sans spoiler, on peut dire que c'est
Ouais, on pourrait spoiler là, je crois.
Ouais,
le truc qu'il y a sur la dernière page du premier tome.
Ouais, c'est quand même c'est en fait c'est on le sait. Ouais, fissure.
Ouais.
Parce que Behemoth, lui, il fait dans le social, il fait dans la mort sociale.
Maintenant, est-ce qu'on arrive à comprendre, tu parles de rentabilité dans le parc, mais c'est quoi la rentabilité pour le diable là-dedans, quoi? C'est pas des âmes qui l'intéressent, en théorie?
Alors, a priori, oui, pour Lucifer. Parce que lui, il prend tous les âmes damnées, quoi, les pires.
Ouais.
Mais Behemoth, lui, il fait, comme il dit, dans le social. Il récupère ceux qui sont au bout du rouleau. Il leur trouve un job, il les aide, quoi.
D'accord.
Lui, ça lui fait du coup de la main-d'œuvre pour ses parcs, parce qu'il en a plusieurs, il a des discothèques, il a des restaurants.
Bon, quels sont les thèmes du premier tome? Donc, le premier tome, on découvre Aurélien et le fait qu'il devienne un démon et comment ça marche et pourquoi.
Ouais, on découvre aussi donc tous les autres personnages. Donc, Francis, le vampire, qui est le directeur. Blaise, qui est un loup-garou, qui est le directeur des ressources humaines. Yves, qui est l'homme invisible, qui est le manager qui est délégué au costume. On a Aton aussi, qui est une momie, qui en fait était vendeur de barbe à papa au début, et qui en fait se casse du parc alors qu'en fait il a un contrat.
Ouais, c'est le gonflé.
C'est le gonflé, il en a marre. Et on a aussi Sirius qui en fait s'occupe des visiteurs, en fait, qui est le directeur com, on va dire.
Et dans le deuxième tome beaucoup plus social. En gros, on a les paysans qui commencent à mal prendre d'avoir tous ces zombies et on commence ces monstres qui disent que c'est des vrais monstres. Enfin, les paysans, on a la chasse aux sorcières, quoi.
C'est ça, la chasse aux sorcières, exactement. Avec les paysans qui arrivent avec leurs fourches. Parce qu'il faut bien se dire que le parc a été à peu près construit en plein milieu des champs, hein, y a rien d'autre autour.
Ouais.
Qui arrivent avec leurs fourches et qui veulent.
Buter du monstre, quoi.
Ou bouter le mal en dehors de leurs frontières.
Bon. Zombielennium, donc une bande dessinée que tu as appréciée. Moi, j'ai pas mal aimé, en tout cas.
Yep.
Qui a l'air plus profonde que ce qu'elle en a l'air, en tout cas, au premier abord.
Et après, il faut passer peut-être le stade du dessin, parce que c'est vrai que le dessin entièrement...
Moi, j'adore, mais...
Mais ça donne un côté un peu lisse, je trouve, au dessin.
Ouais.
Mais ce qui permet aussi d'avoir les petites bandes annonces qu'on a sur internet quand on va sur le site de Zombielennium.
Ouais, c'est plus facile pour lui de faire ça derrière. Mais après, en plus, il y a quelque chose que je trouve génial, c'est qu'il a beau utiliser du dessin vectoriel, il refait les choses. Il pourrait utiliser 40 fois la même image en copier-coller, 40 fois le même mouvement, le même pose, etc. Et parfois, un personnage qui, sur deux cases côte à côte, va être statique, il va refaire. Tu vas pas avoir les ombrages exactement au même endroit. Il ne cède pas à la facilité, alors que ce serait un peu facile de céder à la facilité.
C'est exact.
C'était facile comme phrase.
Enfin, voilà, dans l'ensemble, c'est vraiment quand même... c'est deux bons bouquins pour l'instant. Il n'y a que deux tomes. Vivement le troisième, parce qu'on avance... petit à petit, on va dire, il n'y a pas encore une intrigue générale, mais...
On sent que ça...
Se poser la question quand même de pourquoi que veut réellement le Behemoth et que fait Gretchen là aussi.
C'est chez Dupuis.
Yep.
Et c'est bien. Et ça coûte DU quelque chose.
Ben non, c'est DE.
Ah.
Ben non, c'est Dupuis, donc c'est DU.
C'est ce que je viens de te dire.
DU 06. DE, c'est Delcourt.
C'est ce que je viens de te dire, DU. Très bien.
Et... Ah non, c'est vrai, on fait plus de transition.
Hors sujet.
Et maintenant, nous allons parler de Sketch Travel. Et là,
c'est un super beau projet. Sketch Travel, c'est le projet de deux illustrateurs. Alors, on est dans du hors sujet, presque dans le sujet. C'est un projet de deux illustrateurs que sont Gérard Gerlet et Daisuke Dice Tsutsumi. Japonais, vous vous en serez douté. Qui en gros se sont dit, oh, alors qu'ils étaient en train de garder leur carnet, ça serait trop cool si on faisait un carnet et qu'on se le passait entre illustrateurs à travers le monde entier. Et ils ont fait un beau carnet qu'ils ont mis dans un beau coffre en bois. Et ils se le sont passé entre gens à travers le monde en se disant, ça prendra le temps qu'il faudra, les gens se le passeront, ou bien ça repassera par nous pour qu'on le repasse et qu'on le retransmette, qu'on le redispatche. Mais ce carnet va faire le tour du monde. Ce carnet a fait le tour du monde. Il est passé dans les mains d'artistes parmi les plus grands actuels. Je pense à Garnido, qu'on connaît pour Black Sad, Miyazaki,
John Ho,
Nicolas de Crécy, Rebecca d'Outremer, Mike Mignola, un nombre mais flambant.
On ne peut pas tous les citer, mais voilà, il y a vraiment...
Ils sont 71.
71, et il y a vraiment du très beau monde. Il y en a qui ont fait aussi du dessin hallucinant.
Oui, il y en a qui se sont...
Folie.
Voilà. Alors, il y en a qui ont joué le jeu à fond.
Il y en a qui l'ont fait à l'américaine. Je ne dirai pas de nom.
Genre Mike Mignola. Moi, je dis les noms. Moi, j'ai pas peur de dire les noms. Mike Mignola, malheureusement, selon moi, on voit que bon, il a fait son truc vite fait. Hein. C'est de la dédicace basique pour du Mike Mignola. C'est l'impression que ça m'a laissé. Par contre, il y en a d'autres. Wow, John Ho, il a dû passer du temps dessus.
Ouais.
D'autres.
Miyazaki, il y a aussi une artiste japonaise. Ouais. Là, je ne sais plus le nom qu'elle a.
Oui, des artistes qu'on ne connaît pas forcément non plus, parce que certains viennent du dessin animé, d'autres de l'illustration, certains sont dans la bande dessinée, mais pas que. Enfin, des dessins magnifiques. Le carnet a été mis en vente au profit d'une association pour les enfants qui ne peuvent pas lire, leur offrir des livres et compagnie. Ça a été vendu aux enchères 76 000 euros, je crois. Très très belle somme, un très très bel ouvrage. Le truc original doit être magnifique. D'ailleurs, il y a un des illustrateurs qui a fait un truc en relief qui n'apparaît pas, qu'on peut pas voir dans le livre, qui doit être dans l'original. Et donc, ils ont sorti aux éditions Chêne ce bouquin-là, qui retrace un peu toute cette aventure, qui montre un peu tous ces dessins-là, avec du rédactionnel, avec des témoignages de chaque auteur, une explication de qui lui a passé le livre, quand et quand il l'a repassé à qui, l'étape vis-à-vis du voyage et où est-ce que ça a été fait. Un très très beau travail éditorial, je trouve. De très 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 beaux dessins en règle générale. Alors on n'aime pas forcément tout, mais je pense qu'on ne peut être que touché par au moins la moitié des dessins. Au moins, et il y en a un paquet. Enfin moi je suis sur le cul.
C'est vraiment un bel ouvrage qui donne du plaisir à être regardé.
Et puis c'est une belle aventure derrière, je trouve.
Ça me rappelle un peu un truc que j'avais vu sur des trésors au GPS, c'est-à-dire des endroits où les gens... font des petites caches où ils posent des objets Et tu peux aller le chercher et tu déplaces les objets. Je crois que j'avais lu l'histoire d'un petit soldat en plomb qui a fait déjà 3 ou 4 fois le tour du monde. En fait.
Mais moi, c'est le genre de truc, c'est imagine. Imagine en tant qu'illustrateur quand tu récupères le bouquin des mains de Miyazaki, quoi, et que tu dois dessiner derrière.
Alors, moi, je dirais surtout, c'est pour certains qui sont peut-être moins connus que les grands noms qu'on a cités, c'est aussi le dire. Je suis aussi appelé à faire un dessin. Sur le même livre qu'eux, quoi. C'est...
Voilà, je veux dire, là, je parlais, il y avait Quentin Blake, quoi, le dessinateur de... Enfin, l'illustrateur officiel de Roald Dahl. Les dessins originaux de Charlie et les Chocolateries, c'est lui, quoi. Des trucs, mais... Enfin, des artistes phénoménaux. T'as Glenn Keane, l'animateur, un des animateurs principaux de chez Disney, qui est un génie de l'animation et du dynamisme. C'est lui qui avait fait les dessins pour Réponse. Il avait fait Tarzan aussi, tous les croquis, etc. Et puis d'autres dessins animés avant, il n'était pas encore aussi connu, mais superbe. Enfin...
Bah, tu as aussi donc les couvertures de Fable.
Oui, et James Jean qui a fait un dessin très très hallucinant. Enfin. Franchement, ce bouquin est superbe. On ne va pas tout raconter parce qu'on en aurait pour des heures. C'est aux éditions du Chêne. Il coûte, tu as le prix derrière ?
$29.90.
C'est même pas super cher pour un livre d'art, j'aurais tendance à dire. Un très très beau livre qui raconte une très belle aventure et que je recommande grandement.
Il existe aussi en version collector avec un tiré à part de Nicolas de Crécy.
Oui, qui doit coûter cher et être superbe, mais bon. Hein.
Voilà. Ça peut être un beau cadeau, peut-être pour Noël, si vous êtes fan.
Oui, pour les fêtes, si vous aimez quelqu'un qui aime les beaux dessins. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve dans 15 jours.
En espérant que cette nouvelle version du nouveau relaunch, donc c'est-à-dire le numéro 2, mais du nouveau départ, du new start, comme on fait dans DC Comics.
C'est l'épisode 44.
Numéro 44 pour les anciens.
Voilà.
Vous plaise et puis à bientôt donc voilà. Sur Facebook.
Bon, je pense
Twitter.
Qu'on aura besoin de se roder encore un peu. Hein.
Voilà. Et puis surtout n'oubliez pas à ceux qui seraient volontaires pour participer à nos 2 ans en live.
Ouais, prenez contact avec nous via lavoixdesbulles.fr. Et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires sur iTunes, sur le blog, et puis à venir discuter avec nous sur Facebook ou sur Twitter et Google+. Au revoir et bonne quinzaine.
Ciao.